Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et sur notre plateau, nous avons le plaisir d'avoir Aurélien Demeaux, CEO et fondateur de Electra. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Vous êtes en forme, ça va? Vous êtes speed aujourd'hui, hein,
On est un peu speed, mais on est en pleine forme, tout va bien.
Alors un mot sur Electra, l'un des acteurs européens les plus dynamiques de la recharge ultra rapide pour véhicules électriques, donc que vous avez fondé avec plusieurs associés. L'entreprise déploie un vaste réseau de stations de recharge haute puissance dans plusieurs pays européens, avec l'ambition de rendre la recharge aussi simple, rapide et accessible qu'un plein de carburant traditionnel. Electra, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des champions européens de la recharge rapide, avec une stratégie fondée sur l'expérience utilisateur, la densification du réseau et l'accélération de l'adoption du véhicule électrique. J'ai tout bon jusque-là?
Tout bon.
Bien. Alors, Electra est née d'un constat simple. Tant que la recharge sera perçue comme compliquée, la transition vers le véhicule électrique restera freinée. La recharge reste-t-elle encore le principal frein à l'électrique, Aurélien? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, que cette bataille est quasiment gagnée, ou est-ce qu'il reste encore des obstacles majeurs?
Ben effectivement, vous l'avez dit, nous on a monté cette société à la base pour faire en sorte que les gens passent électrique dans la joie et dans la bonne humeur, si je puis dire. Parce que l'électrique, c'est une chance exceptionnelle pour la France,
oui.
Puisque on est producteur d'électricité absolument massif. En revanche, on importe 99% de notre pétrole. Donc en fait, pour la maison France, le fait d'utiliser de l'électricité plutôt que du pétrole, c'est un très bon deal. Bref. Donc il faut que cette transition, elle embarque plus les gens. Et moi, c'est ce que je regrette un petit peu, c'est que y a parfois des gens qui ont le sentiment que c'est une décision qui a été imposée par des technocrates à Bruxelles, un peu hors sol, etc. Alors qu'en réalité, ça a plein de bonnes propriétés sur le plan climatique, sur le plan de la souveraineté. On le voit en ce moment, hein, on n'a pas de pétrole.
Ouais.
Et si le baril de pétrole monte à 200 ou 250 dollars, on ne peut rien faire, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et puis, la troisième vertu, c'est le pouvoir d'achat, puisqu'aujourd'hui, de rouler en électrique, ça coûte 2 ou 3 fois moins cher que de rouler au thermique. Voilà. Donc aujourd'hui, on a maillé le territoire de manière massive. Donc le nombre de bornes, il est très important en France. Il y a 200 000 points de charge ouverts au public. Énormément de bornes de recharge rapide également. Donc on a fait ça, nous, Electra, mais également un certain nombre de nos confrères, et puis en bonne intelligence avec Enedis. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est avoir des voitures qui chargent plus vite. C'est ce qui est en train de se passer. On a les constructeurs qui mettent des voitures sur la route, qui chargent de plus en plus vite. Parce que dans la tête des gens, charger 30 minutes, 35 minutes, c'est encore relativement long. Alors que si vous êtes sur du 15 minutes, 12 minutes... Là, tout de suite, les gens se disent « Ah, ok,
ouais,
en fait,
c'est vraiment acceptable.
Ouais, ouais. » Donc ça, c'est en train d'être fait. Et la deuxième chose, c'est de simplifier cette expérience de recharge. Aujourd'hui, j'entends quand même aussi, il faut le reconnaître, des gens qui disent « Ok, il y a plein de bornes, mais de temps en temps, je trouve qu'il y a trop d'applications, trop de cartes de recharge, etc. » Et donc ça, c'est notre boulot, de prendre cette complexité pour nous,
ouais,
pour arriver à nouer des partenariats avec des flottes, avec des systèmes de navigation, avec des constructeurs automobiles, et simplifier. Parce que les geeks de l'électrique sont déjà passés électriques. Maintenant, c'est la démocratisation. L'électrique, c'est en train d'exploser en France. Les chiffres du mois de mai, c'est plus 97% de ventes d'électrique en mai 26 par rapport à mai 25. Donc là, maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'y mettent, et il faut que ce soit simple.
Voilà, c'est ça, c'est dû, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, à la crise au Moyen-Orient, la crise pétrolière que l'on rencontre aujourd'hui, qui fait que du coup, ça accélère le développement de l'électrique et les ventes de véhicules électriques, effectivement. Vous avez, Aurélien, récemment déclaré que nous entrions dans une phase où le véhicule électrique devient le choix évident. Alors, au-delà de cette crise que l'on vient d'évoquer, quels sont les signaux qui vous rendent aussi confiant aujourd'hui?
Bah, en fait, d'abord, vous voyez les prix du pétrole et du carburant.
Oui.
Aujourd'hui, le principal moteur pour engager les gens vers la voiture électrique, ça va être le pouvoir d'achat. Donc, si on explique aux gens, voilà, vous avez une voiture électrique qui coûte le même prix que la voiture thermique. C'est pas encore tout à fait le cas, raison pour laquelle il y a des aides.
Ça baisse, mais c'est pas le cas encore. Ouais.
Mais la tendance, en fait, c'est que dans 2 ou 3 ans, on va avoir des voitures qui sont à parité de prix entre le thermique et l'électrique. Et aujourd'hui, il y a ce fameux coup de pouce qui est l'équivalent du bonus pour arriver à combler ce gap. Eh bien, à partir du moment où la voiture, elle peut faire 4, 5, 600 km, qu'elle peut se recharger en 15 minutes, c'est-à-dire qu'en gros, on recrée les mêmes conditions que ce que les gens ont avec la voiture thermique, et que c'est le même prix d'entrée, mais que ça coûte en revanche deux ou trois fois moins cher de rouler en électrique, ben les gens vont massivement se tourner vers l'électrique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, on est à 29% d'électrique dans les ventes. Et l'année dernière, on était à 18 ou 19%. Donc là, on a passé un saut. Je pense qu'il y a un alignement de planètes. Les bornes, aujourd'hui, elles sont là. Les voitures sont moins chères. Elles chargent plus vite. Elles ont plus d'autonomie. En plus, cerise sur le gâteau, il y a le carburant qui a explosé, qui est à 2,20€. Donc, je vous donne un chiffre pour que les gens comprennent, et c'est un chiffre que je donne souvent, c'est que rouler à l'électrique, si vous chargez exclusivement sur des bornes de recharge rapides type Electra, c'est comme si vous aviez un prix d'essence autour de 50-60 centimes. D'accord. Imaginez si demain, oui, le président de la République disait maintenant, l'essence pour tout le monde, c'est 60 centimes le litre. Vous imaginez la bouffée d'oxygène que ça donne à tous les professionnels et à tous les particuliers, tous les ménages en termes de pouvoir d'achat ? Mais c'est ça qu'on cherche à faire avec l'électrique.
Alors vous insistez, et vous l'avez dit au début de cet entretien, sur le fait que la France dispose d'une électricité abondante et largement décarbonée. Est-ce que cette réalité énergétique peut devenir, oui, forcément un avantage économique et industriel majeur, mais est-ce que ça peut le devenir dans la compétition européenne que l'on connaît aujourd'hui et la place de l'Europe sur ces sujets qui se fait quand même distancer par la Chine et par les États-Unis notamment?
Alors, ce qui est sûr, c'est que pour l'électrique, c'est un avantage indéniable. Mmh. C'est-à-dire avoir une grosse force de production électrique avec 56 réacteurs nucléaires en étant exportateur d'électricité dans un monde qui transitionne, c'est-à-dire en gros, on remplace du gaz et du pétrole par de l'électricité. Si vous avez cette forte base de production électrique qui en plus est décarbonée, c'est évidemment un avantage. Mais c'est un avantage pour passer à l'électrique sur la mobilité, mais de manière beaucoup plus large, cette transition énergétique, c'est une chance exceptionnelle pour la France, parce que l'industrie, qui est un gros consommateur d'électricité, va pouvoir en bénéficier, parce que vous avez en fait beaucoup d'avantages à transitionner et du fait de la position qu'a la France aujourd'hui. Donc en fait, c'est pas uniquement le sujet de la mobilité électrique. Quand on regarde l'IA,
oui.
L'IA, c'est le truc, tout le monde en parle matin, midi et soir, c'est des investissements qui sont colossaux. Bah, en fait, l'IA, c'est des data centers et c'est de la consommation d'électricité. Donc avoir de l'électricité pas chère décarbonée, c'est un avantage. Quand on regarde la réindustrialisation, bah, l'industrie, c'est de la consommation d'électricité. Voilà. Quand on regarde la transition énergétique, pompe à chaleur, voiture électrique, là aussi, c'est l'électricité. Donc à chaque fois, le fait, en France, on a quand même un certain nombre de désavantages. Qui sont le coût du travail, etc., par rapport peut-être à d'autres endroits du monde, parce qu'on a un modèle qui est particulier. Mais on a quand même cet avantage d'électricité, pas cher, décarboné, et il faut l'utiliser au maximum.
Alors parmi les freins que l'on peut rencontrer aujourd'hui au développement de l'électrique, alors vous avez évoqué tout à l'heure le temps de chargement qui peut être effectivement un frein. Il y a aussi beaucoup de Français qui vivent aujourd'hui en immeuble, en copropriété, et qui considèrent encore l'absence de solutions de recharge à domicile comme un frein majeur. Est-ce aujourd'hui le principal chantier restant à résoudre pour démocratiser l'électrique ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, les gens qui sont en copropriété et qui roulent en voiture thermique, ils n'ont pas de pompe à essence chez eux non plus. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire le plein. Toutes les semaines, toutes les deux semaines, soit à la pompe à essence, soit dans un supermarché, etc., etc.
Oui, mais ils n'attendent pas 30 minutes.
Oui, mais si aujourd'hui ça met 10-12 minutes de recharger.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est quasiment sur le même temps qu'un plein d'essence. Et qu'on a en fait, ce qu'on est en train d'essayer de recréer, c'est le système actuel qui fonctionne assez bien finalement. Les gens sont contents parce qu'ils ont des voitures qui ont une autonomie importante, qu'ils ont des pompes à essence partout autour d'eux. Et que ça leur prend 5 minutes de faire le plein. Bah, c'est exactement ça qu'on cherche à produire. Mettre des bandes de recharge rapides partout autour d'eux, avec des temps de charge qui vont tourner autour de 10 minutes. Et si on fait ça, bah, je pense qu'on n'a pas... Alors évidemment, ils peuvent avoir la prise en bas dans la copropriété, c'est génial. Mais parfois, vous êtes locataire. Et si vous êtes locataire, vous savez que vous avez déménagé dans un an ou deux, vous ne pouvez pas forcément faire l'investissement, vous n'avez pas envie. Mmh. Parfois, il faut demander à votre copro, c'est un peu galère. Parfois, il y a 100 places dans le parking, et donc on ne peut pas amener l'électricité pour 100 personnes. Donc, évidemment qu'il faut mailler les copropriétés. Mais on ne pourra pas toujours le faire, et je ne considère pas aujourd'hui que ça soit un frein, dès lors qu'on a un système avec des bornes de charge publiques rapides qui fonctionnent bien.
Alors, pour terminer, Aurélien, si nous nous retrouvons à Drive to Zero dans 10 ans, allez, en 2035, on a bien posé cette question aux différents experts qui passent sur le plateau. Comment est-ce que vous imaginez, vous, l'expérience utilisateur idéale ? Alors, recharge automatique, bien sûr, mais réservation intelligente, intégration au réseau électrique, voire disparition complète de la notion d'attente, c'est ce que, en gros, vous nous dites depuis le début de cet entretien ?
Bah, c'est sûr que la notion d'attente, il ne faut pas qu'il y ait d'attente. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu d'attente sur les bornes. Alors, évidemment, ça arrive de temps en temps, de manière épisodique, peut-être un ou deux week-ends par an, il y a la queue sur les bornes, mais comme ça peut arriver dans les stations essence.
Bien sûr.
Mais 2035, bon, pas de moyen de paiement, aucun geste à faire pour moi. Vous prenez le câble, vous le branchez, ça charge automatiquement parce qu'on va pouvoir reconnaître votre véhicule et démarrer la recharge. Énormément de voitures autonomes. Donc ces voitures autonomes, comment est-ce qu'on va faire pour les recharger ? Soit c'est avec des robots, donc des bras articulés qui vont automatiquement détecter l'endroit où ils doivent se brancher et brancher la voiture. Soit c'est des robots humanoïdes qui vont, parce que c'est un geste assez simple. Donc si, enfin, moi je vois les robots humanoïdes aujourd'hui qui jouent au tennis, je pense que de prendre un câble et de le brancher, c'est plus simple et a priori ça va être faisable. Et ensuite je vois énormément de passerelles entre les constructeurs automobiles, les systèmes de navigation, les flottes d'entreprises, les opérateurs de bornes de recharge. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez siloté, et c'est, un point que remontent les gens, qui est de dire, bah, ok, mais en fait, moi, mon constructeur, il m'a donné telle carte, et en fait, je réalise que pour aller sur telle borne, il faut que j'utilise telle app. Et c'est ça, en fait, qui est pénible, je trouve. Donc, il faut qu'on simplifie ça, en faisant, nous, des partenariats qui fassent que tout ça, c'est masqué, l'utilisateur, avec un pass, quel que soit celui qu'il préfère, il puisse tout faire.
On se donne rendez-vous dans 10 ans, du coup.
Avec plaisir.
Mais peut-être un petit peu avant aussi, parce que c'est intéressant de discuter avec vous. Merci, Aurélien Demeaux, d'avoir Merci. Partagé votre expertise, votre analyse avec nous sur le plateau de Radio Immo et Radio Territoria. Merci à vous.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.